Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale marque le 70e anniversaire des travaux de la CIJ, la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies.
Mr. President. On behalf of the Security Council, I wish it every success in the performance of its task.
Depuis sa séance inaugurale du 18 avril 1946, la Cour a rendu 121 arrêts sur des questions aussi diverses que les frontières terrestres, les délimitations maritimes, la souveraineté territoriale, le non-recours à la force, les violations du droit humanitaire international, ainsi que la non-ingérence, la prise d'otages, le droit d'asile, la nationalité, la tutelle, le droit de passage ou encore les droits économiques. La création de la CIJ est l'aboutissement d'une longue évolution des méthodes de règlement pacifique des conflits internationaux. Outre la négociation, la médiation et la conciliation, l'idée de confier ce règlement à une autorité impartiale statuant sur la base du droit est apparue dès l'Antiquité. On parle alors d'arbitrage. Mais c'est au traité de Gênes de 1794 que l'on fait généralement remonter l'histoire moderne de l'arbitrage. Conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce traité d'amitié, de commerce et de navigation prévoyait la constitution de commissions composées en nombre égal de citoyens américains et britanniques pour régler certains litiges.
Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs et attributions de juge en tout honneur et dévouement. En pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.
La Cour se compose de 15 juges, originaires des principales régions du monde et élus pour un mandat de 9 ans chacun par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité siégeant indépendamment l'un de l'autre. Outre leurs compétences en droit international, ces magistrats indépendants doivent assurer dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Alors, quelle est l'importance de la CIJ à l'heure actuelle ? Pour en savoir plus, Christina Silvero s'est entretenue avec Philippe Couvreur, le greffier de la Cour.
Ce que nous fêtons, c'est le 70e anniversaire de la séance inaugurale de la Cour. Et non pas de sa création, car la Cour est un organe principal des Nations Unies, a été créée par la Charte, comme les autres organes principaux. Et donc, le 70e anniversaire de la création de la Cour s'est célébré l'année dernière, en 2015. Ce que nous célébrons maintenant, c'est la séance inaugurale de la Cour, le 18 avril 1946, parce que la Cour n'a pas pu le faire... Plutôt, étant donné que la Cour permanente de justice internationale, sa devancière, qui avait été créée dans le système de la Société des Nations, n'avait pas encore été dissoute. Elle a été dissoute au début de l'année 1946. Alors, l'importance de la Cour, c'est évidemment que c'est la plus haute juridiction du monde. C'est la seule aussi qui est à la fois une compétence générale, c'est-à-dire qui puisse trancher n'importe quel problème de droit international, et qui est une portée universelle, car tous les États membres des Nations Unies sont automatiquement partis au statut de la Cour, ce qui veut dire que tous ces États ont automatiquement accès à la Cour. Voilà, en bref, ce qui est essentiel et pourquoi la Cour est une institution tout à fait particulière.
Est-ce que vous pourriez justement revenir sur les temps forts de la Cour pendant ces 70 dernières années ?
Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la Cour est une juridiction, donc elle ne se saisit pas d'affaires, elle est saisie par ses justiciables, c'est-à-dire au contentieux les États et dans la procédure consultative les organisations internationales. Donc, le juge international... Le juge civil international, je ne parle pas des juridictions pénales, ne peut pas se saisir lui-même d'un problème. Et donc l'activité de la Cour a largement dépendu du désir des États ou des organisations internationales de la saisir. Et ce désir a très fort dépendu à son tour de l'état des relations internationales. Alors, la Cour a connu une période de moindre activité dans les années 60 et les années 70, au plus fort de la guerre froide, tout simplement parce qu'à l'époque, ce n'était pas le désir de la majorité des États de la saisir de problèmes importants mettant en cause leurs relations juridiques au niveau international. En revanche, depuis, on peut dire que pratiquement depuis la moitié des années 80, l'activité de la Cour a connu une augmentation importante. Elle a été saisie d'un beaucoup plus grand nombre d'affaires et d'affaires de plus en plus importantes sur le plan politique. Traditionnellement, elle s'est occupée d'affaires de délimitation terrestre et maritime, et on voit très bien qu'à partir de la fin des années 70 et des années 80, de plus en plus, elle est saisie d'affaires, par exemple, qui concernent le recours à la force par les États. Et c'est une tendance qui s'est maintenant, elle continue à jouer un rôle très important en matière de délimitation de frontières, mais elle intervient de plus en plus dans des dossiers politiquement très délicat et entre autres donc qui concernent le recours à la force. Et ça, je pense, c'est une tendance majeure de voir que l'activité de la Cour a évolué avec l'état des relations internationales et que la Cour est désormais à la pointe du processus de règlement pacifique des différends internationaux et même du maintien de la paix.
De combien d'affaires est-elle saisie actuellement ?
Alors, pour l'instant, elle est saisie de 11 affaires. Ça peut paraître très peu. En fait, il faut savoir que les affaires qui viennent devant la Cour sont évidemment des affaires d'une très très grande importance. Les États ne viennent pas à la légère devant la Cour. Et ce sont des affaires qui représentent chacune des milliers de pages de dossiers. Et on a assisté également, on voit une tendance très nette à la complexification tant factuelle que juridique des dossiers. Donc 11 affaires, cela signifie pour la Cour une activité intense, d'autant plus que cela ne veut pas dire qu'il y ait en permanence 11 affaires au rôle de la Cour. Il y a une moyenne de 2 ou 3 affaires qui sont réglées par an par la Cour et une moyenne de 2 ou 3 affaires nouvelles qui lui sont soumises. Ce qui fait que la Cour a un rôle dynamique, les affaires se renouvellent, mais pour l'instant la tendance est effectivement à une stabilisation du nombre total d'affaires, environ entre 11 et 15 affaires au rôle chaque année. Et je dois ajouter que ce nombre d'affaires n'est pas non plus le seul indice de son activité, car la Cour peut être saisie de beaucoup de procédures incidentes, c'est-à-dire de procès qui s'ouvrent à l'intérieur d'un procès et qui sont aussi contraignants pour la Cour en matière de temps et d'efforts que les procédures principales. Ces procédures incidentes n'apparaissent pas dans le nombre d'affaires qui sont soumises à la Cour.
Quels sont les plus grands défis, justement, pour la Cour quand elle tente de rendre justice, en fait ?
Alors, encore une fois, la Cour, pour pouvoir fonctionner, doit être saisie par les États. Donc, il faut qu'à un moment donné, les États soient convaincus que la Cour, et le droit international en particulier, sont des instruments efficaces de solution de leurs différends internationaux. C'est une question. Comme je le disais, tout dépend du momentum, mais c'est aussi une question de confiance dans l'institution et dans le droit international. Et je crois que la Cour, c'est très important pour elle de maintenir cette confiance parmi les États et de leur montrer qu'elle est capable de régler des litiges extrêmement complexes relativement rapidement. La Cour n'a plus d'arriéré judiciaire. Et à la satisfaction générale de la communauté internationale. J'ajouterais que cela semble être le cas pour l'instant, puisque son activité est en très nette augmentation, comme je le disais, depuis les années 80, et que les arrêts de la Cour sont, en règle générale, très très fidèlement appliqués. attaqué par les États.
Que diriez-vous, que répondriez-vous à ceux qui disent que, malgré l'existence de la Cour, le monde a plus de conflits et de guerres et que la Cour n'a pas su les prévenir?
Alors, je ne crois pas que le monde ait plus de conflits ou de guerres qu'antan. La configuration de ces conflits est très différente. Bien sûr, le développement des communications, etc., fait que le grand public est beaucoup plus au courant des conflits qui se déroulent dans toutes les parties du monde. Et encore une fois, je ne peux que dire que la Cour ne peut exercer sa fonction que lorsqu'elle est saisie. Donc elle ne peut pas prévenir un différend dont elle n'est pas saisie. Elle ne peut que tenter de régler un différend dont elle est saisie par la volonté libre des États. Je rappelle que la Charte des Nations Unies oblige les États à régler pacifiquement leurs différends, mais leur laisse le libre choix des moyens. Donc le règlement judiciaire n'est qu'un moyen parmi d'autres. Les États sont libres et ne sont nullement obligés d'utiliser la Cour. Cela étant, je voudrais dire aussi qu'en rendant des arrêts et en donnant des avis consultatifs, la Cour contribue au développement du droit international, et le développement du droit international, le renforcement du « rule of law », de l'état de droit, est certainement propice à la prévention des différends. De même que le sont certaines décisions ou certains avis consultatifs relatifs, par exemple, à la définition des frontières, etc. En rendant ce genre de décision, la Cour prévient des conflits futurs. Mais encore une fois, elle ne peut le faire que quand elle est saisie.
Quel avenir souhaitez-vous voir pour la Cour ?
Alors, ce que je voudrais, c'est que, bien sûr, les États gardent à l'esprit l'importance fondamentale du droit international pour harmoniser leurs relations et pour qu'ils marchent tous ensemble vers un monde de paix. Et la Cour, je souhaite que la Cour puisse continuer à jouer le rôle discret, mais efficace, qu'elle joue à ce niveau.
Et pourriez-vous juste nous donner un exemple d'un des jugements les plus importants qui a été donné par la Cour, à votre avis ?
Alors, je crois que tous les arrêts de la Cour sont extrêmement importants. Comme je disais, il n'y a pas de petites affaires. Pour les États qui les portent devant la Cour, ils sont importants. Donc, ce ne serait pas très convenable pour moi de dire que telle décision a été plus importante que telle autre. Je crois qu'elles sont toutes importantes dans la mesure où elles contribuent à régler un différend et donc à pacifier les relations entre États. Comme je l'ai dit, il y a des décisions de la Cour qui ont une portée plutôt de diplomatie préventive, qui, en développant le droit international, en stabilisant les relations, préviennent de nouveaux différends. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont été prises dans des périodes de crise et même de recours à la force par des États, et où la Cour a pu agir avec grande efficacité, notamment en indiquant des mesures conservatoires de nature militaire, comme dans le différend entre le Burkina Faso et le Mali, ou même en imposant aux parties une zone démilitarisée, comme dans l'affaire du temple de Preah Vihear récemment entre le Cambodge et la Thaïlande. Mais encore une fois, toutes les décisions de la Cour me paraissent également importantes, qu'elles aient une fonction préventive ou une fonction de règlement immédiat d'une crise aiguë.
Et c'est avec Philippe Couvreur, le greffier de la Cour internationale de justice, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.